C'est l'émission des lycéens.
Et des lycéennes.
Émission des lycéennes et des lycéens.
Sur la web radio Bassin Minier.
Sur la web radio
sur
du Bassin Minier.
Radio Bassin Minier.
Sur la web radio du Bassin Minier.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor. Je suis en compagnie de Jonathan pour vous présenter notre toute nouvelle émission sur le thème du numérique.
N'attendons pas plus longtemps, allons interviewer notre premier interlocuteur.
Je m'appelle Lucien Petit, donc je suis ingénieur informatique. Je travaille dans une coopérative qui s'occupe de tout ce qui est services informatiques, notamment basé sur ce qu'on appelle des logiciels libres. Donc effectivement, on est confronté tous les jours aux problématiques que pose le numérique sous tous ses aspects.
Alors justement, c'est quoi le numérique ?
Alors le numérique, c'est une manière de stocker des informations. Typiquement, tout ce qui est numérique est transformé en ce qu'on appelle des octets numériques, une façon de stocker l'information sous forme de chaînes de caractères de plusieurs, ce qu'on appelle plusieurs bits. Un bit, c'est un 0, un 1, qui signifie un petit peu, qui ont du sens quand on parle de numérique. Alors, par exemple, une photo argentique, c'est une photo qui était imprimée, qui était référencée à partir de produits chimiques. Une photo numérique, c'est une succession de 0 et de 1 qui permettent de stocker des informations sur la couleur de la position de tel pixel, sa couleur, la densité de la photo. Donc une photo numérique, c'est complètement des 0 et des 1 qui se succèdent, avec un ordre que peuvent comprendre les logiciels de traitement des photos, par exemple. Même chose pour un son. Si vous avez un téléphone analogique, c'est les échanges de voix circulent sous la forme d'un flux d'informations, alors que le téléphone numérique, lui, c'est encore une fois une succession de 0, de 1, de données numériques qui sont décodés par des appareils téléphoniques numériques, par des micros numériques, enfin, etc., etc.
Et donc, comment ça fonctionne le numérique ?
Alors, le numérique, c'est deux choses. On va même dire trois. C'est trois choses. Alors, la première chose, c'est les fameuses données dont on vient de parler. Une photo numérique, c'est un fichier de données, un fichier d'informations, dans lequel sont stockés tout ce qui représente la photo. Donc ça, c'est la donnée numérique. Il y a aussi des données numériques, je l'ai dit, dans une vidéo, dans un son. Donc ça, le premier cas de figure, c'est des données. Le deuxième maillon, c'est le logiciel qui va traiter ces données. Typiquement, je prends l'exemple d'un appareil photo, dans un appareil photo, qui est un petit ordinateur finalement, dans un appareil photo, il y a un logiciel qui est capable de prendre ce qui va sortir depuis la lentille, de transformer ça, enfin de capter ça sous forme d'informations numériques et de les stocker par exemple sur la carte SD de l'appareil photo. Même chose pour une caméra numérique. Une caméra numérique, à l'intérieur, il y a un logiciel qui va prendre le flux d'informations qui vient de la cellule de la caméra et récupérer l'ensemble de ces données. Donc il y a des logiciels qui traitent des données. Alors des logiciels qui peuvent être très simples et puis d'autres très compliqués, par exemple, beaucoup plus compliqués. Par exemple, un logiciel de traitement d'image ou un logiciel de montage photo ou montage vidéo ou montage sonore, ça va être des logiciels qui vont pouvoir prendre un petit bout de son, le transformer, ou prendre un petit bout d'image, l'éclaircir, la filtrer. Donc, deuxième aspect du numérique, c'est les logiciels. Et puis, troisième aspect, c'est les, les supports physiques de ces logiciels. Donc là, c'est les matériels. Alors, les matériels sont de nature très diverse. Hein. Un ordinateur, c'est un bon exemple. Un appareil photo, hein, un bon exemple. Un appareil téléphonique, numérique, c'est un autre exemple. Un portique au métro, ben, c'est aussi un appareil qui interagit dans la chaîne du numérique. Donc, dans un appareil, j'ai des logiciels. Et ces logiciels sont capables de traiter des données. Alors, en gros, c'est la chaîne d'ensemble de traitement du numérique.
Et donc, sur une échelle de 0 à 10, à combien on évalue notre fréquence d'exposition numérique ?
Alors, je dirais deux choses. La première chose, c'est difficile de faire une moyenne. Donc, je vais dire ça. Ça dépend vraiment des usages des personnes concernées. Quelqu'un qui vit en milieu rural, je dirais qu'il serait beaucoup moins en contact avec des appareils numériques. À la limite, il peut avoir son ordinateur chez lui, il peut avoir un appareil photo, mais il ne va pas être en présence de caméras de surveillance, de portiques de métro, de badges dans le bus. Enfin, par contre, quelqu'un qui vit en ville, notamment dans des grands centres urbains, ben, il va rentrer dans un magasin, il va être en contact avec des caméras, voire même des affichages numériques. Il va sortir pour prendre le métro, encore une fois, en contact avec du numérique. Il va ensuite rentrer dans sa voiture. Bah, dans sa voiture, au moment de la démarrer, il va retrouver encore un tableau d'affichage numérique avec des capteurs numériques. Enfin, autrement dit, il y a différents types d'exposition au numérique en fonction de la vie qu'on a. C'est sûr que le berger qui s'occupe de ses chèvres, il est bien moins en contact avec le numérique qu'un citadin. Encore que, j'ai envie de dire, et malheureusement, moi, à titre personnel, je le déplore, aujourd'hui, on tente de mettre des puces sur les oreilles des chèvres, par exemple. C'est aussi un des problèmes, c'est ce type d'envahissement de la vie de tous les jours, y compris dans les coins les plus reculés. Mais bon, globalement, je dirais que quelqu'un qui vit à Lille ou à Paris, sa fréquence, puisqu'il faut noter entre 0 et 10, je dirais elle tend quand même davantage vers le 10, hein, je la situerai peut-être au niveau de 8, parce que heureusement, il existe encore des îlots où on peut échapper à cette espèce d'envahissement. Mais là, on est plutôt aux alentours de 8. Deuxième aspect, je dirais, c'est l'usage que chacun d'entre nous peut avoir. Et là, malheureusement, c'est mon opinion, c'est une opinion personnelle, malheureusement, je dirais, le numérique nous envahit à l'insu de notre volonté. Autrement dit, on ne choisit pas forcément de passer devant des caméras de vidéosurveillance, de passer devant des appareils qui communiquent entre eux. Prenez l'exemple du téléphone portable. Aujourd'hui, il devient extrêmement difficile de ne pas avoir de téléphone portable. Même si on choisit de ne pas l'avoir, comme tout le monde en a, comme on est des êtres humains, qu'on a envie de dialoguer, ben on est quasiment obligé d'avoir ce type d'appareil. Alors, je ne dis pas que c'est bon ou pas bon, mais je dis que au bout d'une certaine limite, ben, on n'a même plus le choix. Autrement dit, c'est quasi une obligation. Supposons que je n'ai pas d'appareil portable, d'une certaine manière, je me coupe un petit peu d'un réseau de relations sociales avec des amis, avec de la famille, et c'est peut-être quelque chose qui est à réfléchir. Voilà, donc, ceci étant, certaines personnes arrivent, hein, de par le type de vie qu'ils choisissent ou le type d'activité professionnelle qu'ils choisissent, à avoir une mise en contact avec le numérique plus faible que d'autres. Là, encore une fois, je situerai en gros, en moyenne, hein, bon, c'est très, très schématique, hein, je situerai la note aussi aux alentours de 8.
D'accord. Donc si j'ai bien compris, quelqu'un qui va habiter dans un espace rural va être moins exposé au numérique que quelqu'un qui va habiter dans une zone urbaine. Donc c'est bien ça ?
Alors, c'est très, très global ce que je viens de dire, hein, parce que, en gros, dans un espace urbain, grande ville, hein, métropole lilloise ou la région parisienne. Là, le numérique, il est présent dans tous les actes de la vie quotidienne, hein, dans les transports, dans les magasins, dans les affichages numériques. Alors qu'en campagne, on aura peut-être... Alors, le numérique est présent, hein, autrement dit, le numérique est présent. Il y a, y a Internet, il y a... des téléphones portables, mais il est sans doute moins à portée d'usage quotidien qu'en réseau urbain.
Donc, que pensez-vous de la vitesse d'évolution du numérique sur ces 20 dernières années ?
Alors, le mot que j'ai envie d'employer, c'est accélération. Il y a une accélération permanente. Une découverte, la mise en route d'un nouvel appareil numérique avec un nouveau logiciel, avec des nouvelles fonctionnalités, efface, rend caduc, rend obsolète l'appareil précédent. Il y a une espèce de remplacement permanent et donc d'une accélération des appareils numériques, donc une accélération du numérique dans nos vies. Et ça a des conséquences... des conséquences importantes, je crois qu'il faut en être conscient. Je prends l'exemple, puisqu'on parle d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quelqu'un qui voulait envoyer... quelqu'un qui est secrétaire, qui voulait, dans le travail, c'était de traiter le courrier. Ben, cette personne-là, elle devait répondre à des lettres. Donc, dans sa journée, elle faisait, admettons, une vingtaine de réponses. Avec un courrier, donc elle faisait le courrier à l'ordinateur peut-être, hein, ou à la machine à taper, elle imprimait les lettres ou dans son traitement de texte, ou elle les écrivait manuellement, puis elle mettait ses lettres sous enveloppe et elle les envoyait. Bon, et donc c'était un travail qui était, c'était à peu près l'ordre de travail des secrétaires qui devaient répondre au courrier qu'elle traitait. Aujourd'hui, avec la messagerie électronique, c'est des dizaines et des dizaines de courriers que nous sommes amenés à traiter chaque jour. Autrement dit, il y a vraiment une accélération du volume d'informations qui sont traitées de par les appareils numériques. Et ça joue sur nos vies en ce sens que plus on est rapide à traiter du courrier, plus on a de courriers à traiter. Ceux qui ont connu l'arrivée du courrier électronique, admettons, il y a une quinzaine d'années, ben, dans une journée, ils traitaient... plusieurs mails. Mais ça s'est accéléré. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens, dans leur boîte aux lettres mail, il y a des dizaines et des dizaines de courriers électroniques, de courriels, qui ne sont pas traités. Et la personne, elle se sent, en quelque sorte, obligée de traiter tous ces courriers au fur et à mesure. Donc, nos vies sont soumises à cette accélération que le numérique entraîne. Donc, je pense que c'est vraiment le maître mot, hein, c'est accélération des possibilités numériques, mais aussi accélération de ce que ça nous impose dans nos activités quotidiennes, d'une manière très, très rapide.
Et donc, est-ce que cette accélération représente un danger pour nous ?
Alors, le danger du numérique, de où est-ce qu'il peut venir ? Je vais essayer de donner... Je vais sortir un petit peu de la question. Je vais essayer de dire que, pour moi, il y a trois types de dangers, d'alerte... Déjà, il y a ce que je viens d'évoquer. Autrement dit, une accélération permanente sur tout ce qu'on a à traiter qui ne peut que générer de la frustration. Autrement dit, on va toujours être insatisfait. Hein, on a une masse de choses à faire. On se dit qu'on a plus de temps. On dit que le numérique nous libère du temps. Mais plus on a de temps libéré, plus on a de choses à faire. Et donc, il y a cette espèce d'accélération qui fait que... on a de plus en plus l'impression de manquer de temps. Et regardez, écoutez les gens autour de vous. Combien de gens disent « Je suis débordé, j'ai énormément de travail à régler, je dois rendre plein de choses pour telle date. » Donc cette accélération, elle est d'une certaine manière, je ne sais pas si le mot « danger » est bon, mais en tout cas, il y a une vraie alerte là-dessus. On est en train de... Le numérique fabrique d'une certaine manière... Des frustrations qui sont réelles et qui peuvent peser de plus en plus sur notre vie à tous, autrement dit. Prendre le temps, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne prend plus le temps d'aller au théâtre, de faire de la chanson, de sortir en famille. Enfin, il peut y avoir un risque à ce niveau-là. Donc ça, puisqu'on parle de danger, je dirais que c'est, C'est un des premiers dangers sur nos vies quotidiennes. Le deuxième danger, c'est quelque chose dont on parle peu, mais il faut savoir que derrière le numérique, on dit que le numérique c'est virtuel, hein, c'est des 0 et des 1, c'est des octets, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais en fait non, derrière le numérique il y a beaucoup de matériel, hein, beaucoup de matériel et beaucoup de matériaux. Hein, le numérique c'est par exemple beaucoup de terres rares, les terres rares hein, qui servent à la fabrication des composants de nos portables, des ordinateurs, de tous les systèmes matériels, hein, puisqu'on parlait de matériel, les terres rares sont des... Et là, on est complètement dans le matériel, autrement dit dans les ressources hein, qui sont disponibles sur la Terre. Donc, les terres rares sont utilisées massivement dans le numérique, et leur disparition va aussi poser des problèmes et des déséquilibres sur la planète, hein, des déséquilibres en matière de ressources. Autre aspect lié au numérique, toutes ces communications, ces échanges entre les différents serveurs, ben, ça veut dire que par exemple vous prenez des entreprises comme Google, mais pas seulement, hein, Google et d'autres, hein, Google, Facebook, Twitter, utilisent des masses de serveurs qui sont dans ce qu'on appelle les entrepôts de serveurs, qui consomment une énergie extrêmement importante, hein, qu'on peut comparer à l'électricité nécessaire, l'électricité puis l'énergie nécessaire pour toute une ville, hein, typiquement. Donc on a une dépense énergétique qui est formidable. On croit que le fait d'utiliser du numérique fait qu'on économise par exemple du papier ou qu'on économise de l'énergie. En fait, c'est faux. Le numérique est extrêmement gourmand. Et là, il y a un danger, d'une certaine manière, concernant les ressources dont la Terre dispose. Troisième danger, ou en tout cas forte alerte, c'est tout ce qui pourrait être lié à la santé. Il faut savoir que les appareils numériques communiquent entre eux par des câbles hein, ou par des ondes. Et aujourd'hui, je pense qu'on devrait davantage se poser la question du danger que ça peut représenter, ce type de communication par onde ou par échange Wi-Fi, ou enfin tout ce sur quoi il y a des ondes derrière, il y a sans doute des questions qu'on ne mesure pas. Alors les fabricants de matériel, les fabricants de points d'accès Wi-Fi, les fabricants de téléphones portables, enfin, eux nous disent qu'il n'y a pas de problème, que les dangers sont complètement maîtrisés, que les études ont été faites, mais est-ce que vraiment toutes les études ont été faites? Je pense qu'il y a aujourd'hui des associations, hein, qui sont un peu des lanceurs d'alerte, qui indiquent que, par exemple, des antennes relais auprès d'écoles maternelles, ça peut poser un certain nombre de soucis. Enfin, quand on en est là, ça veut peut-être dire qu'on ne s'est pas posé toutes les questions. Et en tout cas, c'est le troisième type de danger que moi je verrais autour des échanges entre ces appareils avec la question des ondes.
Tiens donc, les ondes sont-elles réellement dangereuses pour la santé? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Mais en attendant, je vais vous laisser avec une petite pause musicale et je vous retrouve juste après. A tout de suite.
Free, I'm feeling so free. No one can make a mic clap his hands like we do. I need to make brains blast like they have a dose of crack. Battle every tech till they have a rap attack. And I'll rap. That's the passion I have. Are you mad? Cause it's part of my genes. I had to count our position. 1, 2, that's normal competition. Boom.
Scooby-Dee Bop, watch the bomb explode. Riding for my bro, so I put a show. Grabbing the mic to speak about our dreams. This is how we roll.
How we roll. I'm waking up. I rise from where I start. Hey, I get around. Stay true all of the time. Here's your chance, come and take it. Don't be scared, there's no limitation. So revelation and inspiration, yeah.
Scooby-Dee Bop, watch the bomb explode. Riding for my bro, so I put a show. Dropping a mic to speak about our dreams. This is how we roll.
How we roll.
Yo, it's as if I was on crack. This dope called rap, while some of you guys use it, I'm here to distribute it. Don't test me, I'm breaking bad material. Yo, gangster to engage, I'm here to give the dose.
Everything around is idolized. I don't ever wanna be patronized by the
decided for me by the things I didn't even want to see.
Scoopity bop, watch the bomb explode.
The bomb explode.
Riding for my bro, so I put a show. Grabbing the mic to speak about our dreams.
Dreams,
this is
yeah.
How we roll.
How we roll.
Skibidouba de Pota. Alors comme promis, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. Je vous rappelle qu'on s'était quitté avec une question. Est-ce que les ondes sont-elles un danger pour les êtres humains? Alors je vous propose de ne pas patienter plus longtemps. Tout de suite, la réponse.
Oui, bonjour, je suis Serge Klein. Je suis enseignant au lycée Henri Darras de Liévin, professeur de mathématiques et sciences physiques au lycée professionnel.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une onde électromagnétique?
Alors on parle toujours d'onde électromagnétique parce que dans chaque onde électromagnétique, vous avez une composante électrostatique et électromagnétique. Mais l'ensemble des ondes issues de l'électricité sont toujours des ondes électromagnétiques.
Comment les ondes agissent-elles?
Les ondes électromagnétiques agissent de différentes façons. Vous avez par exemple un spectre lumineux, ce sont des ondes électromagnétiques. Elles arrivent sur votre corps et puis elles ne pénètrent pas le corps. Ce sont donc des ondes qui restent à la surface de votre corps. Vous prenez des rayons X, elles vous traverseront de part en part. Donc les ondes électromagnétiques sont d'actions différentes en fonction de leur fréquence sur votre corps.
Quelles conséquences peuvent-elles avoir sur la santé?
Eh bien, les conséquences sont très diverses parce que si un certain nombre de rayons électromagnétiques comme ceux de la lumière n'ont pas de conséquences nocives sur la santé, car ils peuvent vous fournir de la chaleur dans le cas des infrarouges, ils peuvent vous permettre de fabriquer de la vitamine D, ils peuvent vous permettre de bronzer. Il y a un certain nombre d'ondes électromagnétiques, vous traversent de part en part, vous ne les voyez pas, elles peuvent causer des dommages sur votre matériel génétique et créer à ce moment-là des cancers de la peau, des cancers plus profonds quand ce sont des ondes issues de sources radioactives par exemple.
Les ondes ont-elles des conséquences positives sur la santé?
Donc les ondes ont des conséquences positives. Alors pour l'instant, on est en train de chercher à savoir quel est l'effet exact des ondes sur votre corps. Les ondes, surtout celles qui sont générées récemment par l'homme, comme le Wi-Fi ou le téléphone portable, dont on ne connaît pas l'action sur le corps. On est toujours à supposer qu'elles n'en ont pas, on n'en est pas certain.
Les ondes ont-elles des conséquences irréversibles sur la santé?
À partir du moment où les ondes électromagnétiques vous pénètrent et puissent modifier votre matériel génétique dans le cœur de vos cellules, évidemment les conséquences pour la santé peuvent être extrêmement néfastes, puisqu'elles peuvent être à l'origine de dégradation de cellules et de transformation de cellules saines en cellules malignes de cancer. Donc les ondes électromagnétiques peuvent effectivement avoir un certain nombre d'effets tout à fait dangereux sur votre corps.
Comment notre corps peut-il se défendre face à ces ondes?
Eh bien, tout dépend du type d'onde. En ce qui concerne les ondes du spectre lumineux, des simples vêtements suffisent à vous protéger. Quand vous prenez des ondes issues des rayons X, il est souvent nécessaire de se protéger grâce à des matériaux bloquant ces ondes, comme du plomb. Ainsi, le radiologue va porter une blouse contenant du plomb pour éviter d'avoir une surdose de rayons X dans son propre corps. Quand vous prenez le cas des rayons gamma, qui sont issus de des réactions nucléaires, il faut parfois plusieurs mètres de béton pour pouvoir les arrêter. Mais l'homme a développé ce genre de connaissances pour s'en protéger.
Et selon votre opinion, que pensez-vous des ondes?
Je pense qu'il faut être extrêmement prudent quant aux ondes issues des nouvelles technologies, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est téléphonie, car ce sont des ondes qu'on maîtrise mal, dont on ne connaît que peu de choses sur l'effet à long terme sur votre corps, qui font l'objet de nombreuses recherches et de nombreuses publications très contradictoires. Évidemment, l'intérêt industriel et l'intérêt de la santé sont en opposition sur la présence de ces ondes dans notre vie quotidienne.
Et bien voilà, chers auditeurs, chères auditrices, notre émission sur le thème du numérique touche désormais à sa fin. N'oubliez pas que chaque samedi à 11h30 sur le site Radio Bassin Minier, vous trouverez une nouvelle émission de la radio des lycéens et des lycéennes. Sur ce, c'était Victor et Jonathan, et je vous dis à la prochaine fois.